France Inter.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Questions Politiques. Le gouvernement à la croisée des chemins après une longue, très longue séquence budgétaire au Parlement. Le bout du tunnel est là demain pour Sébastien Lecornu et ses ministres. Et ensuite, comment rendre utile ces 14 derniers mois du second quinquennat Macron ? Rien d'essentiel, je le crains, ne pourrait être accompli, jugeait Édouard Philippe il y a un an. Pas sûr que notre invitée du jour y souscrive, elle qui est pourtant l'une des principales lieutenantes de l'ex-premier ministre candidat à la présidentielle. Pas sûr non, car au moment où Édouard Philippe tentait de rompre brutalement avec Emmanuel Macron à l'automne dernier, notre invitée acceptait au contraire d'entrer au gouvernement pour la première fois, non pas à la justice comme elle l'espérait, mais à la fonction publique pour 14 petites heures seulement dans ce gouvernement Lecornu 1, historique. Éphémère. C'est finalement au ministère des Outre-mer qu'elle trouve sa place depuis un peu plus de 100 jours et où le président de la République l'attend au tournant sur deux dossiers majeurs, le narcotrafic et la Nouvelle-Calédonie. On va y venir. Naïma Moutchou est en direct sur France Inter, mais aussi sur France Info, canal 16 de la télé et en partenariat avec Le Monde. Nous sommes ensemble pour répondre à toutes les questions politiques et elles sont nombreuses. Vous allez voir jusqu'à 13h. A tout de suite.
France Inter. Questions politiques. Julien Nenni.
Et bonjour à vous, Naïma Moutchou.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour vous interviewer aujourd'hui, Alix Bouyaguet de France Télévisions. Bonjour Alix.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Vous nous avez concocté pour tout à l'heure, comme d'habitude, le portrait de notre invité, Naïma Moutchou.
Oui, Naïma Moutchou, votre itinéraire est celui d'une enfant d'immigrée, un parcours au mérite, une envie d'être hors du cadre et surtout pas là où on l'attend.
Et à vos côtés, Abel Mestre du journal Le Monde. Bonjour Abel.
Bonjour Julien, bonjour
en
à toutes.
En fin d'émission, on se projettera avec vous vers 2027. Avec quelles questions aujourd'hui ?
On parlera de la Nouvelle-Calédonie. Un nouvel accord a été signé il y a quelques jours, mais sans la signature des indépendantistes. On s'interrogera sur l'avenir de cet archipel au cœur du Pacifique et qui attise des convoitises étrangères.
Merci beaucoup Adèle. D'abord, Naïma Moutchou, quelques questions d'actualité avec vous. Et on commence avec cette annonce ce matin de Capgemini, le groupe français, le géant français de l'informatique, qui est englué, vous le savez, dans une polémique cette semaine à cause de ses activités aux États-Unis. Une filiale de Capgemini a fourni à l'ICE, la police très décriée américaine de l'immigration, un outil d'identification et de localisation des étrangers. Le groupe a décidé ce matin de mettre en vente cette filiale pour tenter de sortir de la crise. Est-ce que vous saluez cette annonce d'abord ?
Alors, la ligne du gouvernement a toujours été claire. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, l'a dit. Sans détour, nous attendions de la transparence. Il fallait faire la transparence. Le fait est qu'on peut être une entreprise étrangère, avoir ses propres contrats, mais la réponse de Capgemini...
C'est une entreprise française, hein ?
Oui, absolument. Filiale d'une entreprise française, ouais. Absolument. La réponse qui a consisté à dire... par Capgemini, nous ne savions rien, ça, évidemment, c'était inacceptable. Et donc, Roland Lescure a demandé des explications, à tout le moins une clarification à Capgemini. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas accepter qu'une entreprise française, même indirectement, soit associée à des méthodes qui sont brutales, à de la violence, et donc il fallait des explications.
Ça vous a choqué, ces révélations ?
Ah ben, ça m'a interpellé, ça m'a questionné, comme je pense beaucoup de Français.
Une entreprise française, membre du CAC 40, qui fait la chasse aux étrangers pour l'administration Trump, il faut bien dire ce qui est.
Ça m'a questionné, effectivement ça m'a questionné, et Roland Lescure a été très ferme en recevant la direction de Capgemini, il a posé des questions, il a demandé à ce que la lumière soit faite. Une décision a été prise ce matin, c'est une décision de responsabilité.
Vous la saluez, donc, au nom du gouvernement.
Une décision de responsabilité.
Autre question à propos d'ICE, vous avez forcément vu ces images ces derniers jours de Minneapolis, ces milliers d'Américains dans la rue contre les policiers de l'ICE après la mort sous leurs balles de deux manifestants. Donald Trump les a qualifiés, ces manifestants, d'agitateurs, et vous ?
Ce qui se passe à Minneapolis est grave. Je vais vous dire, on peut lutter, et fermement, contre l'immigration sans tomber dans la brutalité. Comme ce qui est en train de se passer. On a besoin d'avoir une police exemplaire, surtout sur des sujets aussi sensibles que ceux de l'immigration. Moi, je suis ferme sur la lutte contre l'immigration illégale, mais ça ne veut pas dire qu'il faille fabriquer une police hors de contrôle, comme ce qu'on est en train de voir actuellement aux États-Unis.
Elle est hors de contrôle, cette police, aux États-Unis ?
Il y a deux morts. Il y a deux morts, et ça n'est pas rien. On a vu les scènes de manifestations massives, et Trump est en train d'inventer un nouveau rapport de confrontation directe entre la police et la population. C'est grave. D'abord, moi je dis mon soutien aux policiers français, qui sont souvent amalgamés.
Et qui étaient dans la rue hier, notamment
absolument.
À Paris, dans une vingtaine de villes françaises.
Ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui est en train de se passer là-bas, effectivement, est une dérive. C'est une dérive. On peut être ferme, encore une fois, on peut dire qu'il faut des contrôles, on peut dire qu'il faut des expulsions, sans tomber dans ce type, effectivement, de méthodes abusives et totalement violentes. Il faut que la police soit exemplaire, donc il faut de l'encadrement, il faut surtout de l'efficacité dans les règles, et effectivement, ce sont des méthodes que nous ne cautionnons pas.
Retour en France, Naïma Moutchou, demain le gouvernement devrait, sauf immense surprise, très improbable, survivre aux dernières motions de censure sur le projet de loi de finances et la France aura enfin un budget. Est-ce que vous êtes soulagée d'abord ?
C'était l'objectif au moment de notre nomination. C'est la première mission qui était celle de Sébastien Lecornu.
Mais vous dites quoi ? Vous dites enfin, ça y est, il était temps ?
Doter le pays d'un budget, ben oui, bien sûr, enfin, oui. Enfin, effectivement, tout ça a pris beaucoup de temps. Mais nous y sommes parvenus. Et ça, c'est la première bonne nouvelle pour le pays. Pour le pays d'abord, parce qu'un pays qui n'avait pas de budget, comme nous étions en loi spéciale depuis le mois de décembre, quand
et
même,
pour la survie
c'est un pays qui avance
aussi.
À l'aveugle. Oui, non, je vais vous dire. Quand nous avons été nommés les uns et les autres, nous ne savions pas bien quelle était la durée du CDD. 3 jours, 3 semaines, ça fait déjà un peu plus de 3 mois. Mais tant mieux, nous avons besoin de stabilité. Un pays qui n'a pas de budget, c'est un pays qui avance à l'aveugle. Non. Imaginez pour les Outre-mer, ça veut dire pas de chantier, pas de projet, tout à l'arrêt. Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, moi j'ai des acteurs en face de moi qui ont besoin d'avancer. Et j'étais vendredi et samedi dans mon département du Val-d'Oise, mais les gens m'ont dit exactement la même chose que je suis en train de vous dire. Ça suffit, tournons la page de la séquence budgétaire et projetons-nous.
Alors, un dernier mot quand même sur ce budget, vous qui êtes une femme de droite, comment vous le qualifiez ce budget ? Est-ce que, comme Bruno Retailleau, vous diriez que c'est un budget avant tout socialiste ? Ou comme, tiens, le membre de votre parti Horizon, Christian Estrosi, qui lui qualifie ce budget, je cite, d'assez désastreux ? Vous reprenez ces mots ?
Non, je vais vous dire, moi, ce que j'en pense, depuis le départ, c'est un budget de compromis, donc c'est pas un budget de confort, ni pour les uns, ni pour les autres.
C'est un budget de gauche ou pas
c'est ça le fait de faire des concessions, donc c'est un budget de stabilité avant tout. Je lui donne pas de coloration particulière, il a été construit dans le compromis. Il n'est pas parfait, mais je vais vous dire, moi je suis avocate de métier, il valait mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Il valait mieux qu'on arrive à rentrer dans une logique de compromis avec les uns et les autres pour enfin avoir un budget, plutôt que de laisser traîner l'affrontement et d'être dans la posture comme certains auraient voulu qu'on soit.
Alors justement, une fois que le budget sera définitivement adopté normalement demain, le Premier ministre prévoit, vous le savez, un mini-remaniement dans les jours qui suivent. Et quand on lit la presse ces derniers jours, par exemple le Parisien aujourd'hui en France vendredi, votre nom est cité parmi les ministres, dit affaibli. Est-ce que déjà vous vous attendez à devoir peut-être faire vos cartons dans les prochains jours ?
Alors attendez, moi je suis au travail. Et donc ce que peut dire la presse m'importe peu. Je suis au travail le temps que ce mandat durera. C'est jamais quelque chose de fixe.
Mais vous le craignez,
tant que je suis là et jusqu'à la dernière minute,
vous le craignez ou pas ?
Tant que je suis là et jusqu'à la dernière minute, je travaillerai pour les Outre-mer, pour les territoires ultramarins. En trois mois, nous avons obtenu un accord pour la Nouvelle-Calédonie qui redonne de la perspective.
On va y revenir en longueur en fin d'émission.
Nous avons sécurisé des financements pour la reconstruction de Mayotte. J'aimerais qu'on parle des Mahoraises et des Mahorais, par exemple. Nous avons fait en sorte que le budget fasse partie des budgets gagnants aussi. C'est plus d'un milliard d'euros, entre la copie initiale et la copie finale. Ce sont de vraies victoires qui ont été obtenues.
Vous venez de passer le cap des 100 jours aux Outre-mer, vous avez envie de poursuivre, j'imagine. Vous êtes candidate à votre renouvellement.
J'ai une feuille de route, en tout cas. Je n'ai pas accepté par hasard d'être ministre des Outre-mer, contrairement à ce que j'ai pu lire dans la presse. J'ai refusé des propositions ministérielles avant Sébastien Lecornu.
C'était la justice que vous visiez, non ?
C'est
public,
non.
Ça.
Non, ça, c'est ce que rapporte la presse. Et je vous remercie de m'interroger, puisque je vais vous dire ma vérité. Non, je l'ai accepté d'abord parce que c'est Sébastien Lecornu et que je le connais, que nous avons longuement discuté, et j'ai choisi d'être aux Outre-mer.
Alors, si certains, dans la presse et ailleurs, vous jugent, je cite, affaibli, c'est peut-être aussi parce que vous avez perdu un arbitrage important cette semaine. Vous étiez favorable à une proposition de loi du Sénat pour réautoriser la recherche de pétrole en Guyane. Votre collègue à la transition écologique, Monique Barbu, elle était contre. Elle avait même mis sa démission en jeu. Et finalement, Matignon a tranché plutôt en faveur de Monique Barbu. Est-ce que c'était une erreur ?
Alors d'abord, affaibli, ça ne veut rien dire, puisque nous avons obtenu...
Quand on perd un arbitrage, on est affaibli politiquement.
Non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Chacun fait valoir ses positions et c'est normal. Ma collègue Monique Barbu l'a fait, elle a un engagement, elle est cohérente avec ce qu'elle dit. J'ai proposé une autre vision, je suis porte-parole des Outre-mer, j'ai tenté de faire valoir moi aussi mes convictions. Nous sommes deux femmes libres, mais tout à fait loyales. Il y a un arbitrage, effectivement, qui est celui que vous connaissez. Moi, je suis solidaire du gouvernement. Il n'y a jamais eu de querelle de ministre, encore moins de querelle personnelle, et tout ça est un emballement médiatique, je le regrette.
Mais donc vous êtes défavorable à l'arbitrage pris par Matignon cette semaine.
Vous défendiez la position gouvernementale aujourd'hui.
Vous êtes solidaire parce que vous êtes ministre, mais vous défendiez
normal.
La position inverse.
Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des discussions en interne.
Mais sur le fond de ce sujet, parce qu'il est important, vous considérez donc, même si vous êtes solidaire de l'arbitrage de Matignon, que exploiter du pétrole, c'est plus important que préserver l'environnement, en Guyane notamment.
Non, mais ça c'est réducteur et c'est d'une caricature
c'est
terrible.
C'est le principe de cette proposition de loi.
Non, c'est d'une caricature terrible. Mais je reviendrai pas là-dessus parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'après maintenant. Et avec ma collègue Monique Barbu, nous travaillons à un plan de développement pour la Guyane. C'est tout ce qui compte maintenant, à partir de maintenant.
Mais sur le pétrole, on ne va donc pas pouvoir exploiter du pétrole en Guyane. C'est conforme à la loi Hulot de 2017. Vous le regrettez ?
Moi, je suis dans l'après. Je n'ai pas le temps de regret, je n'ai pas le temps de me retourner. Je vous dis que désormais, avec Monique Barbu, nous sommes en train de monter un grand plan de développement pour la Guyane. C'est ça qui est important.
Alors, ouvrons le débat, Naïma Moutchou, si vous le voulez bien. Ouvrons la conversation avec vous, Alex Bouyaguet, et vous, Abel Mestre. Au cœur de l'actualité pour vous cette semaine, je le disais, il y a le narcotrafic. Vous étiez jeudi soir, je crois, à l'Élysée, autour du président, pour une nouvelle réunion sur le sujet, avec tous les ministres concernés. Et Emmanuel Macron vous a demandé, je cite, de muscler la lutte contre le narcotrafic, spécifiquement dans les Antilles, où la mobilisation doit être totale et beaucoup plus massive, a-t-il jugé. C'est presque une forme de recadrage du président contre vous, non? On peut le dire comme ça?
Alors pas du tout, si je peux me permettre.
Allez-y.
Excusez-moi. Pas du tout, parce que quand je suis arrivée au ministère des Outre-mer, la question de la lutte contre le narcotrafic n'était pas structurée. Mmh. Et donc j'ai demandé que les Outre-mer soient immédiatement intégrés à la feuille de route du président de la République. Chose qui a été faite. J'ai été intégrée aux réunions, j'en ai fait deux, autour du président de la République.
Le pour gouvernement ne s'occupait pas du narcotrafic aux Antilles avant votre arrivée?
Non, je dis que les Outre-mer n'étaient pas intégrés à cette feuille de route. Et donc, moi, j'ai fait valoir la nécessité, compte tenu du fait que les Outre-mer sont aux avant-postes de ces sujets, qu'on puisse en parler aussi avec les ministres régaliens. C'est chose faite. La deuxième chose, le président de la République a raison. Vous voyez bien que les Outre-mer sont au carrefour de la lutte contre le narcotrafic. D'abord parce qu'ils sont sur la route, les routes internationales et maritimes des stupéfiants. Et puis, ils sont devenus, malheureusement, aujourd'hui aussi, des lieux de marcher à l'intérieur. Vous avez de plus en plus de territoires confrontés au trafic de stupéfiants.
Quelles mesures vous allez proposer au président de la République qui attend un plan d'action d'ici un mois? C'est les premières mesures d'urgence à prendre pour les Outre-mer sur le narcotrafic? C'est quoi? C'est construction de scanners dans les aéroports pour lutter contre les mules? C'est rénover les prisons? C'est renforcer les forces de l'ordre? Je ne sais pas.
D'abord, la pression, elle existe déjà. Je ne dis pas que rien n'a été fait avant. Non, attention, il y a encore une saisie de plus de 500 kilos de cocaïne aux abords de la Martinique.
Manifestement, ça ne suffit pas.
Ce que dit le président, c'est que. Mais oui, mais il faut changer d'échelle.
Et donc, qu'est-ce que vous dites?
C'est bien ce que je dis depuis que je suis arrivée dans ce ministère.
Les principales idées fortes, ce sera quoi?
Changer d'échelle, et le président de la République a demandé un plan Marshall, il a raison. Donc, sur ce qui se passe à l'intérieur des territoires, nous travaillons avec les préfets, notamment Martinique et Guadeloupe, puisque vous savez que les Antilles sont principalement concernées, et donc il y a un plan d'action, des plans d'action, qui vont être déployés pour davantage d'amendes forfaitaires délictuelles, pour mieux lutter contre le blanchiment d'argent, pour aussi s'attaquer à la saisie d'armes. Il y a beaucoup d'armes, des armes de guerre, qui circulent dans ces territoires. Il y a ensuite ce que l'on va faire pour lutter contre le réseau, les réseaux, ce qui permet que les territoires soient des zones de passage de rebond vers l'Europe. Et là, on va concentrer nos efforts sur les ports, les aéroports. On va densifier les équipements, tout ce qui est radar, tout ce qui est caméra, tout ce qui concerne la surveillance maritime. On va aussi mettre des moyens personnels, des ressources humaines supplémentaires. Vous voyez, c'est cet ensemble qui va permettre de changer d'échelle, de monter d'un cran et d'apporter des réponses concrètes. Moi, je serai sur place avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, après les élections municipales.
Et le président?
Et le président de la République, parce que nous voulons aussi travailler à la coopération régionale. Il faut qu'on travaille avec les pays voisins. Ce sera probablement en déplacement aux Antilles, à l'été, comme il l'a annoncé.
On sait qu'il y a également une campagne de communication d'ici à la fin du premier semestre qui devrait rediaboliser les drogues. Emmanuel Macron, on s'en souvient, avait déjà annoncé que l'amende forfaitaire délictuelle passerait de 200 à 500 euros. Amine Kessassi, militant contre le narcotrafic à Marseille, lui, il tient un autre discours. Il sous-entend quand même que le président de la République passe aussi un peu à côté du sujet, que la drogue, c'est aussi une addiction. Est-ce qu'il ne manque pas un volet santé dans la lutte contre le narcotrafic?
Alors, la ministre de la Santé participe à ces réunions autour du président de la République. Il y aura un volet santé. L'idée, c'est bien d'intervenir à tous les niveaux.
Ce sera
de
quoi,
la prévention
dans ce...
La ministre, donc ma collègue Stéphanie Rist, y travaille. Donc il y a les sujets effectivement de prise en charge. Je peux vous parler de ce qui se passe en Polynésie française où le territoire est ou a déferlé ce qu'on appelle l'ICE, malheureusement aussi, qui est une forme de méthamphétamine particulièrement addictive. Nous allons travailler à des campagnes de prévention, à des prises en charge, à des opérations de santé médicale pour accompagner. Mais ça n'est pas tout. Il faut qu'on soit présent sur la prévention, sur les campagnes, sur l'information, sur une forme de culpabilisation, c'est vrai, mais aussi sur l'action, c'est-à-dire ce que je viens de décliner, et puis sur la sanction, il ne faut pas oublier l'échelle pénale.
La lutte contre le narcotrafic, c'est aussi un budget. On sait que les Antilles, la Guyane, sont au cœur des routes de la cocaïne. En période de disette budgétaire, est-ce que vous avez la certitude que vous aurez ces moyens humains, judiciaires, qui seront à la hauteur, ou on va continuer quand même de bricoler un peu au jour le jour?
La période de contrainte budgétaire, ça n'est certainement pas l'inaction. Certainement pas. Il y a des priorités, et ces priorités, elles seront financées. À partir du moment où nous aurons décliné une stratégie, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'élaborer un plan très concret, les moyens suivront.
Sur la Guyane notamment, c'est un cas un peu à part parce que c'est frontalier de plusieurs pays, c'est au carrefour des routes de trafic de drogue. Est-ce qu'on a les moyens de sécuriser des frontières comme ça, qui en plus ont une topographie très particulière avec l'Amazonie, pour faire passer les trafics? Comment on fait?
Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons
pas le choix. Oui, mais comment on fait concrètement,
quoi? Ça passe par de l'organisation et ça passe par des moyens supplémentaires. C'est pour ça que je me déplacerai en Guyane, je serai aux côtés, en soutien des forces de sécurité, pour aussi voir sur place comment tout ça est cadré, comment tout ça se met en place, et pour ensuite apporter des réponses concrètes.
Et avec les pays frontaliers, il y a des discussions en ce moment sur... sur une force peut-être internationale d'intervention, ou je ne sais pas, une forme un peu inédite de lutte?
Nous sommes en train d'en discuter dans le cadre de ces feuilles de route lutte contre le narcotrafic. Je vous parlais des Antilles, mais ça concerne aussi la Guyane, ça concerne Saint-Martin, ça concerne Saint-Barthélemy. La Guyane, évidemment, elle aussi est la cible ou la victime de ces réseaux, de ces cartels particulièrement puissants et dangereux. Nous apporterons des réponses.
Mais ça va coûter combien, Naïma Moutchou? Parce que vous dites le budget va suivre, les fonds seront là. Je reprends la question d'Alix. On est en période d'économie, de disette budgétaire. On a vu à quel point le budget a été compliqué à faire passer, notamment pour ces questions-là. Combien il faut pour financer le plan que vous allez présenter au président?
Ça coûtera ce que ça coûtera.
Combien?
Ça coûtera ce que ça coûtera.
Des
vous
milliards
le chiffre. Non, mais je vous donnerai le chiffre quand je l'aurai. Ne prenons pas, si vous voulez, ne brûlons pas les étapes et ne prenons pas les choses à l'envers. D'abord, c'est la stratégie. Comment on fait? Quel est le plan d'action? Comment on rend beaucoup plus opérationnel la lutte contre le trafic? Comment on protège la société? Ensuite, on fera les comptes. Mais à partir du moment où c'est un enjeu prioritaire, quand je dis qu'il faut changer d'échelle, quand le président le dit, la question des moyens, elle est subsidiaire.
Alors, vous dites que c'est un enjeu prioritaire, donc oui. Rentrons aussi dans le concret. On sait qu'en Outre-mer, policiers, gendarmes, douaniers, ils dénoncent tous la même chose, un sous-effectif chronique. Que vous a dit le président de la République? Combien de postes supplémentaires vont être créés cette année?
Mais tous les territoires ne peuvent pas être traités de la même manière, donc je n'ai pas de réponse uniforme. Ce que je peux vous dire, c'est que le sujet a été abordé, nous en avons discuté, évidemment. Pour faire fonctionner des radars, pour faire fonctionner des bateaux qui surveillent aux abords des territoires, évidemment, il faut des moyens humains. Et donc, ça fera partie de nos discussions. Moi, je continue de voir le ministre de l'Intérieur. On va se rencontrer à intervalles réguliers pour construire ce plan.
Parce qu'il y a aussi les tribunaux ultramarins qui sont complètement débordés.
Mais le garde des Sceaux.
Et des enquêtes qui s'enlisent. Donc à quoi ça sert d'attraper les gros poissons si finalement, à l'arrivée, la chaîne judiciaire ne suit pas?
Non, parce que tout le monde est mobilisé. Le garde des Sceaux l'est autant que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Il fait partie des discussions. Il aura un projet de loi qu'il présentera bientôt, d'ailleurs, le projet de loi sur.
Mais excusez-moi, nous on entend quand même
ça concernera
que vous n'avez pas d'enveloppe précise, vous n'avez pas de budget, vous ne connaissez pas les effectifs. C'est un peu flou, quand même.
C'est en construction. Et c'est normal, c'est en construction. La feuille de route, elle va se décliner. Tout ça prend du temps parce que c'est un sujet sérieux. Donc, je peux revenir dans quelques temps pour vous dire combien ça coûte, si ça peut vous rassurer. Mais ce qui est important, la certitude, ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce matin, c'est qu'il y aura un plan à grande échelle de lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer, parce que c'est notre devoir vis-à-vis de ces populations.
Mais ce quoi qu'il en coûte que vous annoncez, est-ce qu'il est tenable en cette période d'économie généralisée? Est-ce que ce n'est pas des promesses en l'air? Est-ce que ça va suivre vraiment? Est-ce que ce n'est pas des effets d'annonce?
Non, mais parce que, encore une fois, la contrainte budgétaire, ce n'est pas l'immobilisme. Le régalien a toujours été une priorité du gouvernement. Le Premier ministre l'a dit à plusieurs reprises.
L'argent, c'est quand même le nerf de la guerre.
Oui, bien sûr. Mais c'est évident. Mais ce que nous voulons, c'est que les budgets que nous mettrions demain sur ce plan d'action soient efficaces. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'un euro dépensé ne produise pas de résultats. C'est ça qui nous importe, c'est pas de dire « nous ne ferons plus rien ». Nous devons la sécurité à nos compatriotes, et donc le régalien reste une priorité pour nous.
Est-ce qu'il n'y a pas une attention particulière à avoir aussi, puisqu'il faut être concret, sur la ville de Fort-de-France, en Martinique? J'avais, préparant cette émission, trouvé un chiffre très frappant, 40 homicides, rien que sur l'année 2025, en Martinique, très souvent liés au trafic de drogue, c'était 29 en 2024. Est-ce qu'il faut, politiquement, du point de vue sécuritaire aussi, une mobilisation en Martinique aussi forte qu'à Marseille, par exemple,
sur
le narcotrafic?
Mais attendez, bien sûr, c'est bien ce que je suis en train de vous dire.
Vous avez un focus particulier sur la Martinique, vous avez bien conscience du problème
là-bas. La Martinique et la Guadeloupe, parce que les chiffres sont à peu près les mêmes, autant d'homicides qu'à Marseille, autant de narcomicides, c'est-à-dire d'homicides liés au trafic de stupéfiants, qu'à Marseille. Pour chacun de ces territoires, moins peuplée que Marseille. Mmh. Donc bien évidemment qu'il y a un sujet. L'urgence n'est pas qu'hexagonale, elle est aussi dans ces territoires.
Est-ce que vous parlez, pour ces territoires-là, de mexicanisation ?
Non, je n'emploie pas ces mots-là parce que je ne veux pas stigmatiser...
C'était le terme de Bruno Retailleau quand il était à Beauvau.
J'entends bien. Je ne souhaite pas stigmatiser ces territoires. Absolument pas. La mexicanisation, ça fait très peur. Il y a des gens qui se battent au quotidien contre les stupéfiants. Il y a des équipes engagées à tous les niveaux, dans le secteur médical, évidemment je pense aux forces de sécurité, ce que font les associations, l'idée c'est de venir en soutien.
Dans l'actualité cette semaine aussi, Naïma Moutchou, il y avait votre autre chef, c'est pas seulement Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, Édouard Philippe, le chef de parti, votre parti Horizon, qui a lancé sa campagne municipale pour tenter de se faire réélire au Havre. L'ex-premier ministre a déjà annoncé la couleur, hein. S'il perd au Havre dans un mois et demi, il ne pourra plus être candidat à la présidentielle, ce qui risque de motiver encore un peu plus ses opposants. Est-ce qu'il pêche pas d'abord par excès de confiance, Édouard Philippe, en liant son destin présidentiel à son destin municipal ?
Je ne crois pas, non. Il a dit, il me semble, quelque chose qui relève du bon sens. C'est-à-dire qu'on peut difficilement dire qu'on va diriger un pays si on n'est pas solide dans sa propre vie. Je crois que c'est le message qu'il a voulu passer. Voilà, Édouard Philippe est engagé comme maire sortant dans sa ville. Moi, je trouve que c'est sain. Je trouve que c'est sain.
Il n'y a pas une petite hypocrisie quand même. On se met à la place des électeurs au Havre. Ils disent, mais en fait, à quoi bon réélire notre maire Édouard Philippe, puisque dans la foulée de son éventuelle réélection, il se tournera uniquement vers l'Élysée. C'est un peu compliqué comme discours.
Mais non, mais je pense que c'est un atout pour la ville du Havre d'avoir un candidat à la présidentielle. Moi, je pense que c'est un atout.
Qui n'est pas concentré à 100% sur le Havre, du coup.
Mais non, mais qui vous dit qu'il n'est pas concentré à 100% sur le Havre ?
Regardez le bilan qui est sien. Naïma Moutchou, quand il s'est déclaré officiellement candidat à la présidentielle, ça remonte à septembre 2024, Édouard Philippe l'avait justifié en disant « On dit souvent que pour une présidentielle, il faut avoir envie de rien d'autre, j'y souscris. » Et finalement, là, il est candidat à quelque chose d'autre.
Mais je vais vous dire, il y a un précédent, il a été Premier ministre et candidat à sa réélection déjà au Havre. Et il a été Premier ministre dans un contexte compliqué.
Il n'était pas candidat à la présidentielle à ce moment-là.
Non, mais enfin, il était Premier ministre. Il était aux responsabilités d'un pays dans lequel il y avait quelques défis majeurs à relever. Et il a été maire et candidat à sa réélection. Et regardez le bilan du Havre. Une ville qui a été transformée, réindustrialisée, où il y a une écologie très concrète qui a été mise en œuvre. Les résultats sont là. Et à la fin des fins, de toute façon, ce sera le choix des Havrais.
Alors, pendant son meeting mercredi, j'y étais, Édouard Philippe a aussi glissé un début de mea culpa vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Vous l'avez entendu, hein. On se souvient qu'à l'automne, il avait appelé à la démission programmée du président pour sortir du blocage. Et il avait aussi dit ceci.
J'ai beaucoup de respect pour le président de la République qui m'a nommé Premier ministre, mais je ne lui dois rien. Il est venu me chercher.
Changement de ton 3 mois plus tard au Havre, au meeting de mercredi donc.
Le président de la République m'a fait l'honneur, je lui dois ça, et parfois je m'exprime de façon trop brutale, je ne devrais pas. Il m'a fait l'honneur de me proposer de servir mon pays pendant 3 ans à Matignon, ce que j'ai fait avec à la fois plaisir, dans une période qui n'a pas toujours été facile, mais j'ai beaucoup appris, beaucoup, et j'ai fait de mon mieux.
C'était une erreur d'appeler à la démission du président et de dire finalement je ne lui dois rien.
Édouard Philippe, président de parti, candidat à la présidentielle demain, il a vocation à s'exprimer sur les sujets, sur le moment politique, et donc il continuera de le faire.
Non, mais il a l'air de le regretter, là.
Non, j'ai pas l'impression, je pense qu'il a...
Bah si, c'est ce qu'il dit, hein. Je m'exprime parfois de façon trop brutale, je ne devrais pas.
Petite machine arrière quand même, mettons des mots, soyons honnêtes.
Oh, mais il a plutôt précisé sa pensée.
Il dit « je ne devrais pas », ça s'appelle un mea culpa.
Alors, j'ai pas entendu tout ce qu'il avait dit.
C'est ce qu'on vient de diffuser. Là, je vous le refais. Le président m'a fait l'honneur, je lui dois ça. Et parfois, je m'exprime de façon trop brutale. Je ne devrais pas de me proposer de servir mon pays pendant 3 ans à Matignon. Je ne devrais pas. Donc il reconnaît une erreur.
Il explique que parfois sur la forme, il peut dire les choses de manière un peu plus brutale. C'est ce que je comprends des propos que vous rapportez. Mais sur le fond. Mais je pense qu'il n'y a pas de sujet.
Enfin, la forme et le fond, là, en l'occurrence, se rejoignent. Il a quand même dit que finalement, si Emmanuel Macron démissionnait, ce serait plutôt une bonne chose pour le pays. Est-ce que, même si effectivement il fait une petite marche arrière, il n'y a pas une erreur originelle pour quelqu'un qui souhaite devenir chef de l'État et donc qui souhaite devenir le garant des institutions, eh bien, de dire un peu le contraire ? Est-ce qu'il ne s'est pas décrédibilisé sur ce coup-là ?
Décrédibiliser, non, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres Français qui pensent la même chose. Mais je vais être honnête avec vous, je lui dis mon désaccord sur ce sujet.
Ah, vous n'étiez pas d'accord avec
lui ? Je n'étais pas d'accord.
D'accord, vous étiez nombreux à Horizon comme ça ?
Il a pris cette décision ? Je ne peux pas vous dire, moi je parle pour moi.
Il a pris ses décisions tout seul dans son coin, alors ? C'est ça que ça veut dire ?
Non, mais tout seul dans son coin, c'est un homme politique, responsable. Je pense qu'il a réfléchi avant de s'exprimer comme il le fait toujours. C'est quelqu'un de sérieux. Mmh. Et il a dit ce qu'il pensait. Et
qu'est-ce qu'il vous a dit ?
On ne peut pas lui reprocher de dire ce qu'il pensait.
Quand vous lui avez dit que vous étiez opposé à ça
et... on a des discussions sur tous les sujets. On peut ne pas être d'accord sur tout. Mmh. Je lui ai fait valoir la position qui était la mienne. Et depuis, on continue d'échanger.
Donc, et il l'a payé dans les sondages après. Ça ne vous a pas échappé, en particulier dans l'électorat macroniste.
Oui, alors les sondages.
Un vrai trou d'air dans les sondages. Non, mais vous la regardez comme tout le monde, soyons pas hypocrites. Franchement, comment on fait pour rebondir après des semaines de glissade dans les sondages?
Vous vous trompez, je ne les regarde pas comme tout le monde. Moi, ce que je regarde, c'est je prends la température sur le terrain. Pas tout à fait la même chose. Mmh. Les sondages, il y a des courbes qui augmentent, des courbes qui descendent. Demain, ce sera encore autre chose et encore après-demain. Donc, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le projet, la vision. Et en dépit des quelques désaccords qu'on peut avoir, on se rejoint sur l'essentiel. Ouais, c'est
justement,
tout ce qui
Madame Moutchou, sur le positionnement et sur la ligne, le fil rouge, disons, de la candidature d'Edouard Philippe, on ne sait pas très bien où il se situe. Est-ce que c'est il veut incarner le macronisme sans Macron, ou est-ce que c'est il veut incarner une nouvelle offre à droite? C'est quoi l'identité de sa candidature,
Il veut incarner ce qu'il est lui, ce qu'il fait depuis toujours, ce qu'il a fait au Havre, ce qu'il a fait comme Premier ministre. C'est-à-dire un candidat et un futur chef d'État responsable, solide et sérieux.
Et
je peux dire que dans la vie politique actuelle, faite de populisme et de réponses simplistes, ça fait du bien.
Et donc c'est le candidat de la droite, pour vous?
C'est le candidat du Rassemblement. Ce sera le candidat du Rassemblement.
Mais du Rassemblement, quand? Parce qu'on parle de trou d'air. En fait, il y a plusieurs candidats qui sont un peu dans un mouchoir de poche. Désormais, il ne fait plus la course en tête. Gérald Darmanin, Gabriel Attal notamment. Ça veut dire quoi? On attend quoi? Que les sondages, ce soit l'épreuve de vérité en septembre? Au contraire, il faut se dire, il faut s'organiser, puisque tout le monde est dans ce mouchoir de poche pour une primaire. Et si oui, de qui à qui?
Je pense qu'il y a plusieurs temporalités. On est dans la période des ambitions personnelles. Comme toujours.
Gabriel Attal qui va se déclarer candidat, c'est une ambition personnelle. Gérald Darmanin dit que c'est du narcissisme. Vous dites pareil?
J'aurais tendance à dire pareil, oui.
Il est narcissique, Gabriel Attal?
Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire pareil.
Pourquoi?
Moi, ce qui m'importe, c'est que demain, nous n'ayons qu'un seul candidat. Même pas deux. Je veux dire, on n'a pas le luxe d'avoir deux candidats. Il faut un candidat. Celui qui a la capacité à rassembler tous les autres, et ce qui n'est pas une mince affaire, jamais.
Donc une primaire, ce serait une bonne idée?
Et
d'où à où?
Je ne sais pas, sur la mécanique, je ne sais pas à moi de trancher. C'est pas à moi de trancher, on verra.
Sur la méthode, ça compte la méthode.
Mais attendez, avant cela, peut-être, parlons de fond et de projet.
On va y venir, bien sûr.
Ceux qui se déclareront candidats auront, j'espère, des idées, un projet pour le pays, une vision, c'est là-dessus que ça va jouer.
Excusez-moi, on voit la gauche qui s'organise. D'une certaine manière, elle a mis sur les rails une primaire qui aura lieu à la rentrée prochaine.
Oui, avec toutes les polémiques qui vont avec.
Et on sait que c'est long d'organiser une primaire. Donc vous, quel est votre positionnement? Est-ce que vous vous dites, si tout le monde est au coude à coude, c'est peut-être la bonne solution?
Édouard Philippe, aujourd'hui, est le candidat naturel de mon parti.
Pas dans les
soutiens.
Oui, de votre parti, oui, du
pas
bloc
dans les
central,
sondages.
Non.
Je vous ai dit ce que je pensais des sondages.
C'est pas le candidat naturel du bloc central,
Je vous ai dit ce que je pensais aujourd'hui des sondages, et chaque chose en son temps. Laissons passer les élections municipales, avançons ensuite projet contre projet, et nous verrons bien où cela nous mène. Mais à la fin des fins, il peut y avoir quelqu'un candidat.
En oui-non, est-ce qu'une primaire de Sarah Knafo à Gabriel Attal, comme le suggère Laurent Wauquiez, c'est une bonne idée? À laquelle pourrait participer Édouard Philippe, pareil.
Alors, je ne me prononce pas sur la primaire. Et encore moins sur la primaire de Sarah Knafo.
Mais pourquoi ça vous embarrasse à ce point, la méthode? On a l'impression que vous êtes gêné aux entournures.
Parce qu'on se braque sur des éléments de forme et on escamote toujours le fond.
On va y venir, c'est
moi,
la question d'après, le fond. Mais la méthode, ça compte. C'est très politique, vous le savez comme
nous. C'est le fond, parce que le fond peut déterminer la méthode. Vous comprenez? S'il y a un projet qui émerge, qui est un projet de solution, qui, sur le terrain, parle aux Français... les choses, elles se feront plus naturellement. Si c'est une guerre d'ego et une guerre d'ambition personnelle, ça va faire mal.
Parlons du projet un instant. Ça fait des mois, même des années, qu'Edouard Philippe promet un projet, je cite, « massif ». Après les municipales, on y est presque, là, dans un mois et demi, s'il est réélu au Havre, il sera radical à ce point. Son projet, vous étiez un temps en charge du pôle idée, je crois, du parti Horizon. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de mesure massive, radicale, que présenterait Edouard Philippe?
Tout ça viendra en son temps.
Mais vous vouliez parler de
fond. Imaginez bien que si je vous parle aujourd'hui du programme présidentiel, je serai un peu à côté de l'actualité. Je suis là comme ministre. Je me suis mis en retrait du porte-parole d'Horizon, même si je réponds aimablement à vos questions sur Horizon. Mais ce n'est pas à moi de dévoiler le programme, et certainement pas dans cette temporalité. Moi, le rôle qui est le mien aujourd'hui, c'est le budget, c'est la stabilité. Et ensuite, des élections municipales. Et vous verrez que Alice. Tout viendra à point.
Juste un exemple concret de réponse massive, les retraites, on se souvient d'Édouard Philippe qui voulait aller jusqu'à pourquoi pas 67 ans. Est-ce qu'il va garder cette ligne-là ?
C'est Édouard Philippe qui vous le dira. Nous aurons le temps d'en discuter. C'est tout à fait anachronique de parler de ça maintenant.
Alors, avant la présidentielle, on l'a dit, il y a les municipales en mars. Oui. Enjeu majeur, là encore, pour Horizon, qui est avant tout un parti de maire. Et enjeu ultra-politique pour vous, oui. Horizon, à Paris. Vous avez décidé de présenter votre propre candidat, Pierre-Yves Bournazel, face à Rachida Dati. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne plaît pas du tout à la toujours ministre de la Culture, qui était assise à votre place il y a seulement 2 semaines.
Moi, il faudra interroger Édouard Philippe, qui veut rassembler pour 2027 la droite et le centre.
Là, il
pourquoi
veut vous faire perdre.
Bien sûr. Pourquoi il met un candidat pour faire gagner la gauche?
Il veut faire perdre Rachida Dati à Paris, Édouard Philippe?
Non, évidemment. Enfin, c'est
ce que dit Rachida Dati.
Oui, j'ai bien entendu ce qu'avait dit ma collègue et amie Rachida. Je ne vais pas commenter les petites phrases des uns et des autres, non, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'appelle les candidats à parler de fond. À reparler de fond pour les Parisiens. La propreté, la saleté, le logement, il y a des tas de sujets de discussion. À chaque fois qu'on a été divisé, on a fait passer la gauche. Je l'ai dit, à la fois à Pierre-Yves et à Rachida.
Bah vous êtes divisé, là. Il y a deux candidats de la droite et du centre.
Oui, mais je vais vous dire, je les connais, ils ont deux projets, deux histoires, deux styles assez différents. Et moi, je dis que maintenant, il faut se projeter sur la suite.
On a encore un peu de temps.
On a encore un peu de temps pour s'organiser et il faut qu'on se mette en situation de gagner.
Est-ce que pour s'organiser, ce n'est pas le second tour ? Donc clairement, vous dites qu'il faudra être finalement pragmatique. Vous préférez la droite à la gauche, j'imagine. Est-ce que ça veut dire que Pierre-Yves Bournazel ne devrait pas se maintenir si jamais il était au second tour face à Rachida Dati pour ne pas la faire perdre ?
Je ne préempte pas le second tour. Je ne préempte rien de ce qui va se passer dans le cadre de ces élections. Je dis simplement que le rassemblement de la droite et du centre est indispensable si nous voulons gagner.
Donc sinon, ça veut dire qu'Edouard Philippe devra prendre son téléphone pour dire Pierre-Yves Bournazel, il faut débrancher.
Il y a un peu de temps pour nous organiser encore. On va d'abord attendre de voir ce que seront les résultats. Mais moi, je souhaite effectivement que dans le temps, on puisse se parler. C'est ce que j'ai dit aux candidats et moi, c'est ce que je continuerai
à faire.
Qu'est-ce
que vous dites aux Parisiens qui veulent voter à droite que l'alternance est mieux incarnée par Pierre-Yves Bournazel ou par Rachida Dati ou non, par les deux
Parisiens...
moment-là, pourquoi deux candidatures?
Je dis que le candidat de mon parti, c'est Pierre-Yves Bournazel. Et je connais aussi très bien Rachida Dati. Et donc, je vois bien quel sera l'enjeu si nous voulons gagner le rassemblement.
Mais
nous n'avons pas
possible.
Le choix.
Il va falloir que Pierre-Yves Bournazel entende raison, parce qu'aujourd'hui, que ce soit hors micro ou même publiquement, Pierre-Yves Bournazel, il est très clair, il n'y aura pas de ralliement à Rachida Dati.
Chacun y va pour gagner aujourd'hui, et c'est normal.
Mais c'est perdu d'avance.
Mais chacun y va pour gagner aujourd'hui, et c'est bien normal. Oh. Et chaque chose en son temps, et nous continuons à discuter après le premier tour, en fonction des résultats. Je ne fais pas de politique fiction, je ne préempterai aucun résultat.
Mais comment vous expliquez quand même que dans votre camp, je pense notamment à des ministres de premier plan, je pense à Gérald Darmanin, je pense aussi à Benjamin Haddad, pourquoi ils ne soutiennent pas Pierre-Yves Bournazel, mais ils soutiennent Rachida Dati ?
Il faut leur poser la question.
Ça veut dire qu'elle fait peur, Rachida Dati ? Qu'il vaut mieux être avec elle que contre elle ?
Non, 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 je ne pense pas. Gérald Darmanin connaît Rachida Dati depuis longtemps, par exemple. Donc, c'est plutôt à eux qu'il faut poser la question. Moi, à mon niveau, je vous dis comment je vois les choses. Et je suis transparente, puisque j'en ai parlé, à la fois à Pierre-Yves et à la fois à Rachida.
Et ils vous disent quoi, alors ? Racontez-nous.
Ils prennent acte, ils sont attentifs, en tout cas.
Mais ils sont prêts à faire un pas l'un vers l'autre ? Parce qu'aujourd'hui... y compris au niveau personnel, on a lu les propos de Pierre Bournazel dans son livre.
Tout le monde a ça dans un coin de sa tête.
Et le moment qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne passeront pas leurs vacances ensemble, les deux. Donc, ça va pas être évident, le rassemblement.
Enfin, le rassemblement, c'est jamais facile. Hein. En général.
Un mot d'actualité avant de passer à la suite. On l'a évoqué en début d'émission, il y a eu de larges manifestations de policiers hier aussi, un peu partout en France, notamment à Paris, dans une vingtaine de villes en tout, à l'appel du syndicat Alliance, marqué à droite, qui appelait à des manifestations citoyennes. Et parmi les revendications, dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail, il y a cette proposition de loi pour instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Alors, d'abord, je voudrais dire tout mon soutien, si vous le permettez, aux policiers, aux policières. Oui. Ils exercent un métier de plus en plus dur et de plus en plus exposé. Et je veux leur dire que nous sommes à la tâche et au travail. Et le ministre de l'Intérieur l'a dit lui-même. Il travaille tous les jours, pour améliorer le quotidien des policiers. Et évidemment, le fait de voir des hommes et des femmes qui portent l'uniforme descendre dans la rue, ça doit nous contraindre et nous obliger à écouter ce qui se passe.
Sur les manifestations d'hier, ça ne vous a pas dérangé politiquement qu'une grande partie des figures d'extrême droite, je pense à Marion Maréchal, Sarah Knafo, Nicolas Dupont-Aignan et d'autres, Thierry Mariani aussi, étaient tous ensemble en tête de cortège hier à Paris.
Oui, des personnalités qui sont là un jour par an. qui manifestent leur soutien aux policiers.
Mais
un
ça
jour
veut
par
dire
an.
Quoi que la
Nous,
police
fait tous les jours.
Est à l'extrême droite aujourd'hui ?
Non, mais Laurent Nunez
Alliance,
le fait.
En tout cas.
Laurent Nunez le fait tous les jours. Le fait tous les jours. Sa place n'était pas dans le cortège, me semble-t-il. En revanche, sa place, c'est à son bureau. Il travaille tous les jours pour augmenter les budgets. En 2026, il a non seulement sanctuarisé le budget ministère de l'Intérieur, mais il a obtenu 106 millions d'euros supplémentaires, 1000 créations d'emplois. En ce moment même, il travaille à un plan investigation, à simplifier les procédures pénales, c'est du concret, et au texte dont vous avez fait mention tout à l'heure.
Et la présomption de légitime défense, alors, vous y êtes favorable ?
Je suis favorable à avoir la discussion. Bien sûr, mais
parce
oui, pourquoi il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Il y travaille. Et donc, le moment venu, nous en discuterons pour savoir quelle forme cela peut prendre dans le respect de l'état de droit.
Naïma Moutchou, vous êtes l'invité de Questions politiques, donc, et on va tenter de mieux vous connaître aujourd'hui.
Questions politiques sur France Inter.
Et celle qui dévoile nos invités, c'est vous, Alix Bouyaguet, notre spécialiste des biographies et des archives.
Mes chers collègues, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes chers collègues, vous perdez vous-même du temps, s'il vous plaît. Mes chers collègues, j'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord. Merci. Je vous remercie.
Nous sommes le 31 octobre 2024. Vous êtes alors vice-présidente de l'Assemblée nationale. On vient de vous entendre donc au perchoir en train d'essayer de ramener le calme. Preuve quand même de votre caractère bien trempé, vous vous êtes payé le luxe de refuser sous Michel Barnier le portefeuille de l'égalité femmes-hommes. Pas mes sujets, dites-vous à l'époque. Nouveau refus quand il envisage de vous mettre sous Bruno Retailleau à l'intérieur en charge de la citoyenneté. Je ne suis pas l'arabe de service, c'est ce que vous auriez répliqué selon Libération. Est-ce que c'est ça votre hantise, c'est-à-dire devenir finalement le porte-drapeau d'une communauté, être assigné ?
Oui, alors j'ai un parcours et une histoire dont je ne peux pas me défaire, dont je ne veux pas me défaire d'ailleurs. Je suis très à l'aise avec qui je suis et j'ai cette capacité peut-être à porter une voix un peu différente. Et donc maintenant je veux m'en servir, compte tenu de ce que je vois, de ce que j'entends autour de moi, de la manière dont la France insoumise en particulier instrumentalise les sujets que vous avez évoqués, autour de l'identité, autour des communautés. Alors là, j'ai décidé de prendre mes responsabilités, clairement.
Vous parlez donc de votre parcours, vous avez 44 ans, vous êtes fille d'immigrés marocains illettrés, vous le revendiquez en ces termes dans un message sur X, arrivé en France en 1961, 26 ans en HLM de banlieue, benjamine d'une famille de 6 enfants, des études de droit à Cergy-Pontoise puis à Assas à Paris, vous devenez avocat de 2010 à 2017, spécialisé en droit de la presse et en droit des affaires. Est-ce que vous pensez qu'un parcours comme le vôtre, c'est toujours possible en France en 2026 ?
Je dis que oui. Vous voyez, contrairement à l'atmosphère, ou à ce que d'autres peuvent dire, je dis que oui. Parce que vous venez de me citer, mais il y a des tas d'autres exemples aujourd'hui de réussite. On parle beaucoup de ce qui ne va pas. Moi, j'ai envie de dire qu'on est aussi dans un beau et grand pays qui permet ces parcours de la méritocratie. Alors bien sûr, il faut faire un peu d'effort. On n'a rien sans rien, c'est vrai. Mais quand même, entre les dispositifs d'accompagnement, la qualité de l'école publique, quand même, même s'il y a des difficultés, bien évidemment, il y a la possibilité pour chacun de trouver sa place. Les difficultés, il faut les régler, évidemment, et c'est ce qu'on essaye de faire, chacun à son niveau, responsable de l'exécutif, les parlementaires, en votant la loi. Mais la réalité, c'est quand même que nous avons un pays qui donne les clés de l'émancipation. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on ne l'entend pas beaucoup. Dans les milieux populaires, au sein des banlieues, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup la politique de la victimisation que certains essayent de dérouler pour quelques voix.
Vous avez aussi une autre casquette. Hein. Vous avez été bénévole pour la LICRA pendant 10 ans. Vous traitez de cas de diffamation, discrimination, d'incitation à la haine raciale. En tant qu'avocate, en 2014, vous assumez d'avoir fait condamner un homme pour une agression où il avait traité sa victime de sale blanc, ce que vous appelez l'un des premiers cas de racisme anti-blanc. À l'époque, ça avait créé une petite polémique et pas mal de récupérations politiques. Mais sur le fond, est-ce que vous dites aujourd'hui que oui, il existe une forme de racisme anti-blanc, un ressentiment anti-français en France?
Ça existe. Bien sûr que ça existe. Moi, je l'ai vu, j'y ai été confrontée. Vous l'avez dit, je suis avocate de métier, j'ai beaucoup plaidé à titre bénévole pour des cas anonymes. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais c'est tous les jours. Et ça existe, oui. Et donc, le racisme anti-blanc, c'est quoi? C'est la haine de l'autre. Le blanc, le français, le babtou, à l'époque, c'était l'injure, hein, c'était suivi d'agression, hein, tout ça est très grave. Et ça existe. Et d'autres formes de racisme existent. Et moi,
vous
je combats toutes les haines. Je
combats
toutes les haines d'où qu'elles viennent.
Vous connaissez des blancs discriminés en France, aujourd'hui ?
Des blancs qui subissent du racisme, oui.
Mais discriminer dans l'accès à l'emploi, l'accès au logement, ça existe.
Mais ça peut exister aussi, bien sûr. Vous avez des Français issus de la ruralité, par exemple, ou de la province, qui montent à Paris, comme on dit. Ils sont aussi discriminés. Les ultramarins, nos compatriotes, quand ils viennent dans l'Hexagone, ils subissent aussi de la discrimination, ils sont français, etc., etc. Oui, les exemples existent. Et donc, je ne hiérarchise pas, les formes de haine et de racisme. Je les combats toutes, et je ne rentre pas dans ce débat malsain qui consiste à dire une communauté plutôt que l'autre. C'est le début du racisme de faire ça.
Je vais vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon. C'était la semaine dernière, il était en meeting à Toulouse.
Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps, et que c'est pas parce qu'il y a 10 dingues dans un coin qui tout d'un coup ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leur peur.
Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, donc en meeting, employer cette expression « grand remplacement » pour décrire ce que devrait incarner la France insoumise, c'est-à-dire une nouvelle France diverse et en renouvellement, en détournant donc volontairement ce concept de grand remplacement qui est associé à l'extrême droite, est-ce que pour vous, c'est un discours qui est discriminatoire ?
Oh, c'est même pire que ça. C'est même pire que ça, qui a besoin de davantage de représentativité, qu'on parle de diversité, très bien, c'est une chose, je ne suis absolument pas défavorable. Mais quand j'entends parler de grand remplacement ou de nouvelle France, quand même un vocabulaire particulier, on emprunte aux pires obsessions identitaires quand on parle comme ça, alors là, pardon, mais je suis choquée. Je suis attachée à la cohésion nationale, compte tenu de qui je suis, d'où je viens, j'y suis attachée. Et donc je refuse qu'on instrumentalise ces questions, je refuse qu'on mette les gens dans des cases, qu'on parle de communauté, et LFI a une grille racialiste sur ces sujets.
Est-ce que vous redoutez une campagne des municipales qui va se communautariser avec des listes communautaires? Est-ce que vous pensez que ça va être au cœur de cette campagne?
Notamment dans mon département du Val-d'Oise, il y a des listes communautaires qui sont en train de s'organiser. Oui, le danger est là. C'est bien pour ça que j'en parle. C'est bien pour ça que je dis qu'il faut que ce soit dans le débat public. Il faut que nous soyons nombreux à le dénoncer. On ne peut pas continuer à entendre ce qu'on entend sans porter de contre-discours. Et donc, moi, je n'accepte pas que M. Mélenchon essaye de constituer la France, voyez, en bloc communautaire qui se regarde avec suspicion du matin au soir. C'est le meilleur moyen de nous fracturer.
Et juste sur ce thème racisé, oui, utilisé par les insoumis, hein, des candidats racisés, ça vous choque ?
Mais oui, ça me choque. On ne peut pas se définir comme... Qu'est-ce que ça... Ça ne veut pas dire grand-chose, d'abord. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut à peu près rien dire.
Pour eux, c'est la diversité.
Oui, non, mais c'est la diversité. Oui, non, mais très bien. C'est... Oui, mais voyez ce qu'ils en font. Des réunions anti-blancs à l'issue, de la discrimination à l'envers sous prétexte de progressisme qui est du racisme. Il faut entendre les mots qui sont employés.
Est-ce que ce n'est pas une manière pour la France insoumise de reprendre ce qui avait été unanimement repris en 98, la France black-blanc-beurre ? Est-ce que ce n'est pas juste une autre façon de le dire ?
Pas du tout. Le black-blanc-beurre était positif. C'était un élan positif pour la société. Là, ce que fait M. Mélenchon avec ses équipes, avec notamment les députés insoumis à l'Assemblée nationale, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ce n'est pas porté par le haut, cette idée justement de cohésion nationale en se disant « on est différents, mais on fait communauté ensemble ». Non, non, non. C'est vous êtes d'abord une couleur de peau, un nom, une origine avant d'être français. Enfin, c'est scandaleux de porter ça auprès de gens dans les quartiers populaires qui déjà ont une forme de ressentiment parce qu'ils entendent ce qu'ils entendent, parce qu'ils s'informent sur les réseaux sociaux et que tout ça, on le sait très bien, est manipulé. Donc je dis stop et moi je me battrai contre ça. Je refuse qu'on instrumentalise ces sujets. Nous sommes dans un pays qui permet de faire... Même si, encore une fois, il y a des choses qu'on peut certainement améliorer, mais chacun peut trouver sa place dans la société.
Pour conclure sur la France insoumise, Naïma Moutchou, votre collègue au gouvernement, Laurent Panifous, ministre des Relations avec le Parlement, placé directement sous la tutelle de Matignon d'ailleurs, a déclaré lundi dernier sur LCP qu'en cas de risque de victoire du RN au municipal, il était favorable à ce que le PS fasse alliance avec la France insoumise dans certaines villes. Il a raison ou pas ?
Moi, je ne donne aucun conseil dans ces cas-là. Je viens de vous décrire le danger, à mes yeux, de ce qu'est la France insoumise.
Donc votre ligne, c'est le ni-ni, ni LFI, ni RN.
C'était ma campagne, notamment aux dernières élections législatives. Donc ni la France insoumise, ni le Rassemblement national. Pas d'extrême.
D'accord. C'est une autre tradition dans cette émission, Naïma Moutchou, on va passer à la suite. Nous vous accordons une sorte de carte blanche pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur et sur lequel on vous entend un peu moins souvent. Qu'est-ce que vous avez choisi comme sujet aujourd'hui ?
J'ai choisi le thème de la désinformation.
Alors allez-y, on vous écoute.
Et vous voyez bien d'ailleurs à l'occasion de cette interview, je suis beaucoup revenue sur des vérités qui n'en étaient pas, en essayant d'expliquer que parfois ce que peut dire la presse n'est pas tout à fait exact, voire totalement à l'encontre de ce qu'est la vérité.
On fait ce qu'on peut pour faire
notre
métier.
Non, mais bien sûr, et je comprends la difficulté qui est la vôtre. C'est exactement la même chose dans le monde politique aujourd'hui. On est passé dans une société qui est quand même beaucoup une société du mensonge, de la manipulation de l'information. C'est vrai que l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, ça a été un grand bond, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est la liberté d'expression, c'est le fait qu'on puisse accéder à la connaissance, où ça va très vite. Mais le pire, c'est ce à quoi on est en train d'assister. C'est que vous avez aujourd'hui, alors ça vient d'un peu partout, hein, vous avez des individus, parfois c'est de l'ingérence étrangère, qui veulent venir manipuler les esprits pour essayer d'orienter les décisions. Moi, j'ai porté un texte en 2017, à l'Assemblée nationale comme députée, qui a été adoptée un an après, sur la manipulation de l'information. Un texte qui visait à lutter contre les fake news. Et à l'époque, je me souviens, pas beaucoup de monde qui partageait le constat de ce danger.
Et vous trouvez qu'il y a moins de fake news sur les réseaux sociaux aujourd'hui ?
Je trouve déjà, et c'est une bonne nouvelle, que tout le monde ne dit plus ce que j'ai entendu il y a quelques années, c'est qu'il n'y a pas de sujet. À l'époque, il y a des députés, notamment des députés Rassemblement National, qui disaient il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de désinformation, ça n'existe pas. Mmh. Et à l'inverse, vous aviez les Insoumis qui disaient dis donc, on va faire la police de la vérité, c'est scandaleux. Non. Il faut encadrer ces sujets. Mmh. Parce que c'est un sujet démocratique. La démocratie, c'est la confiance. Si vous minez la confiance, vous amenez des régimes autoritaires.
L'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, dresse chaque année le bilan de cette loi de 2018 que vous avez portée, que vous avez co-rapportée même. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan est plus que contrasté. Je regardais tout à l'heure le dernier bilan de l'ARCOM. Il dénonce notamment le manque de transparence de plusieurs plateformes, et pas des moindres, TikTok et Google notamment. Est-ce que, comme certains vous le reprochaient déjà en 2018, vous n'avez pas voté une loi pour rien ?
Alors pas du tout, parce que d'abord, c'est une loi qui visait d'abord, dans le cadre des grands moments nationaux de scrutin, à ce qu'on ait des élections transparentes. Donc élections présidentielles, élections législatives, avec la possibilité de saisir un juge quand il y avait de fausses informations qui circulaient. C'était principalement ça. Après, le fait que les plateformes ne soient pas allées au bout de leur transparence, moi je suis d'accord avec vous, et il faut qu'on continue d'y travailler.
Emmanuel Macron veut y travailler, il veut notamment interdire les réseaux sociaux avant 15 ans, et s'en prendre aux algorithmes qui diffusent beaucoup aussi de fake news, en particulier sur les réseaux sociaux, donc c'est bien la preuve que votre loi ne suffisait pas.
Non mais parce que, encore une fois, ma loi ne réglait pas tout. Cette loi de 2018, dont personne ne voulait, pardon, à l'époque, aujourd'hui, elle est totalement inscrite dans le cadre légal, c'est une loi qui permet de saisir un juge dans des élections, et donc ça n'a rien à voir. Ça portait sur un mécanisme d'éducation aux médias, vous avez parlé des réseaux sociaux et des jeunes, et voilà les dispositifs qui ont été mis en place. Après, d'autres lois sont venues compléter, etc., mais vous voyez qu'on a encore du chemin à faire.
Allez, on avance, il nous reste à peine 10 minutes dans cette émission, et comme chaque semaine, Abel Mestre décortique un sujet clé du débat présidentiel de l'an prochain, et ce matin, Abel ?
C'est la question de la Nouvelle-Calédonie qui est au cœur du portefeuille de la ministre des Outre-mer. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le 19 janvier a été signé à l'Élysée un nouveau document qui complétait l'accord de Bougival de juillet, qui vise à créer un futur État de Nouvelle-Calédonie inscrit dans la Constitution. Mais le problème, c'est que les indépendantistes du FLNKS n'ont pas signé ce document. Est-ce que c'est un échec ?
Alors, j'aurais préféré que le FLNKS soit à la table des discussions, ça c'est certain. Et j'ai tout fait pour qu'il soit à la table des discussions.
Quoi, par exemple ? Comment vous avez...
J'ai été totalement transparente avec toutes les forces politiques. J'ai expliqué quel était le cadre. Bougival. En demandant au FLNKS d'expliquer en quoi Bougival ne les intéressait pas, ce qui pouvait être amélioré, travaillé. J'ai dit que les sujets étaient ouverts. Le président de la République a invité toutes les forces politiques à venir le 16 janvier à la discussion, à minima au dialogue, pour confronter les points de vue. Le FLNKS a fait le choix de ne pas venir. C'est-à-dire que tout en appelant eux-mêmes à la discussion, tout en appelant eux-mêmes à des réponses urgentes parce que le territoire va mal, c'est la politique de la chaise vide.
Mais est-ce que ça vide pas cet accord de toute sa force, le fait que le FLNKS ne soit pas signataire ?
Alors d'abord, mais 5 forces politiques sur 6 de la Nouvelle-Calédonie ont signé cet accord, parmi lesquelles des indépendantistes. N'oublions pas, les indépendantistes de l'UNIPALIKA, qui ont été des fondateurs du FLNKS aussi, qui sont des indépendantistes. Donc des indépendantistes, des non-indépendantistes, des progressistes et les centristes. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Je l'ai dit, personne n'a de droit de veto sur l'avenir des Calédoniens. Le territoire est en difficulté. C'est la récession là-bas. Les gens ont besoin d'emploi. Les gens ont besoin de perspectives. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se croiser les bras? Je suis désolée, je dis non. Et je dis en même temps que la porte reste ouverte.
Justement, le FLNKS dénonce un chantage économique de la part de l'exécutif. En clair, l'aide au territoire contre la signature de cet accord. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Mais pas du tout, pas du tout. Moi, je vous parle de fait, encore une fois. Je vous parle de vérité.
C'est eux ce qu'ils disent.
Que s'est-il passé? Moi, j'ai porté
pour justifier
comme...
leur refus de...
Oui, j'ai porté comme ministre des amendements pour plusieurs centaines de millions d'euros. Des amendements de nature économique, sur le nickel, sur la jeunesse. Au moment de l'examen budgétaire, nous étions au mois de décembre. Il n'y avait aucun accord qui avait été signé, il vient d'être signé en janvier. Des amendements adoptés, qu'on repris dans le projet de loi de finances. Il n'y avait pas de chantage. L'argent était là pour que le territoire se redresse en dehors d'un accord politique. En revanche, moi, ce que j'ai dit, et que je redis, c'est qu'on peut injecter tout l'argent du monde. Si vous n'avez pas de stabilité politique, bah, les investisseurs, ils reviennent qu'à un quart. Voilà. C'est ça la vérité. Et le FLNKS doit l'entendre.
Et justement, alors, le FLNKS doit l'entendre, mais est-ce que les loyalistes ne doivent pas l'entendre aussi? Parce que c'est aussi une partie du problème sur place, c'est la radicalité d'une partie des loyalistes donc, qui veulent rester dans le cadre de la France, je dis pour les auditeurs. Est-ce que vous leur parlez? Est-ce que vous essayez de leur dire on fait redescendre la pression, on essaye de calmer la situation?
Les loyalistes, comme les autres, ont accepté de venir discuter. Depuis le début. Ils sont à la tête des discussions depuis le début. Et ils ont fait des concessions dans le cadre de l'accord de Bougival, dans l'intérêt général de la Nouvelle-Calédonie.
Alors donc il n'y a pas un sujet sur les loyalistes?
Il n'y a pas de sujet. Ils ont signé, ils ont permis eux-mêmes, à leur niveau, la signature d'un accord global, en portant un projet différent de celui des indépendantistes de l'Unipalika. Ils ont fait un pas, comme les autres.
Alors, un des objectifs, c'est l'adoption d'un projet de loi constitutionnel. Alors, d'abord au Sénat, je fais un peu le rétro-planning pour les auditeurs et les téléspectateurs, dès février, puis à l'Assemblée nationale en mars-avril, avant la réunion à Versailles du Congrès, qui réunit députés et sénateurs. Est-ce que, vu la division politique du Parlement, est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous avez eu les socialistes, pareil, sur ce sujet, pour voir un peu ce qu'ils pensent et ce qu'ils pourraient voter ce projet?
Vous avez raison, on est déjà dans l'étape d'après. D'ailleurs, au moment de la signature, nous étions déjà tous engagés dans l'étape d'après, le processus parlementaire, qui n'est pas simple, en général, mais qui n'est pas simple en particulier s'agissant de la Nouvelle-Calédonie. On est au travail. Moi, j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, de réunir les forces politiques calédoniennes dans chacune des deux chambres, pour qu'elle puisse aller expliquer l'accord de Bougival, l'accord Élysée-Oudinot, le sens de cet accord, pourquoi c'est important pour le territoire. Ça a été la première étape. Moi, je suis en lien avec les présidents de groupe des deux chambres également. Je les vois régulièrement pour expliquer l'accord de Bougival. Personne n'en parle. Tout le monde est encore une fois coincé sur la forme. Il faut regarder ce qu'est cet accord. On y parle identité kanak, identité calédonienne, droit à l'autodétermination, transfert de compétences régaliennes, qui est un sujet quand même pour les indépendantistes.
Pour juste dernière question sur la Nouvelle-Calédonie. Cette semaine, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a rendu un rapport extrêmement sévère sur le maintien de l'ordre lors des émeutes de 2024. Est-ce que cette question-là, du maintien de l'ordre, des réfections de la prison de Caen Est, dont une partie date de l'époque du bagne, est-ce que tout ça aussi ne contribue pas à ne pas faire baisser la tension? Est-ce qu'il y a un problème de maintien de l'ordre en Nouvelle-Calédonie?
La Calédonie est passée par un moment très difficile, celui effectivement des émeutes du mois de mai 2024. C'est bien pour ça que je dis aujourd'hui qu'il n'est pas question de voir revenir la violence sur le territoire. Donc il n'y a pas un problème de maintien de l'ordre. Depuis lors, depuis ce mois de mai, vous avez une mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité sur place.
Le rapport dénonce une répression violente, souvent disproportionnée à l'encontre des Kanaks. Je cite aussi pour que ce soit bien précis.
Depuis lors, vous avez une mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité en Calédonie. Le territoire a besoin effectivement de sécurité et de sécurité visible. C'est ce que nous faisons. La violence ne sera jamais une méthode politique, je le redis. Nous sommes ouverts à la discussion et je ne souhaite pas, personne ne souhaite, que la Calédonie revive ce qu'elle a vécu.
Naima Moutchou, on arrive déjà, ça passe vite, aux deux dernières minutes de cette émission. Je vous propose un petit jeu très simple pour finir, un vrai ou faux. Est-ce que vous êtes prête?
Je suis prête.
Sébastien Lecornu ferait un bon candidat à la présidentielle, vrai ou faux?
C'est un joker.
Ah bah non, pas de
ah
la
bah c'est un
question.
Joker Ah non, mais vous commencez fort.
Les, les règles étaient fixées, Naïma Moutchou.
Il n'est pas candidat.
Vrai ou faux, Sébastien Lecornu? Il n'est pas candidat. Il serait meilleur qu'Edouard Philippe pour la présidentielle ou pas? Vrai ou faux?
Il n'est pas candidat.
S'il est réélu au Havre, Edouard Philippe sera, quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, sur la ligne de départ du premier tour de la présidentielle.
Vrai?
Bruno Retailleau fera un bon premier ministre d'Edouard Philippe.
Ça appartiendra au président de la République le moment venu.
D'accord, mais vrai ou faux, à vos yeux?
Ça appartiendra au président de la République.
Vous-même, vous ne serez jamais candidate à la présidentielle.
À 7 heures.
Mais vrai ou faux?
Comme on dit tous, à 7 heures.
En cas de second tour, Mélenchon-RN, puisqu'on ne connaît pas encore le candidat en 2027, vous vous abstiendrez, vrai ou faux?
C'est une réflexion.
Victor Hugo est le plus illustre des Français. J'ai lu ça dans un...
Ah, vrai, oui.
Ouais. Votre œuvre préférée de Victor Hugo, tiens?
Ah, c'est toute l'œuvre. Moi, c'est l'histoire de Victor Hugo.
Il n'y en a pas une qui ressort plus qu'une autre?
De
Victor Hugo.
Deux phrases, pardon?
Non, une œuvre de Victor Hugo qui vous intéresse.
Ah, Les Misérables, alors, mais c'est plutôt l'histoire.
Allez,
c'est
une
plutôt l'histoire de Victor
finir.
Hugo.
Vous êtes capable de citer des tirades entières des tontons flingueurs, vrai ou faux?
Ah, vrai, mais je perds un peu la mémoire.
Bon, une petite démonstration,
non,
pas possible.
Je vais être ridicule.
Allez, on aura essayé. Ça vous fait un point commun avec Edouard Philippe. Merci beaucoup, Naïma Moutchou, d'avoir répondu à nos questions politiques. Merci aussi à vous et auditeurs, téléspectateurs, évidemment, pour votre fidélité. Merci à Lise Bouillaguet et à Belmestre qui m'ont accompagné aujourd'hui. Merci aussi à Rémi Sulmont et Fabienne Lemoyle pour la préparation. Quant à vous, eh bien, je vous souhaite un très joyeux dimanche, un très bon dimanche. Et bien sûr, vive la politique.